9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, émission spéciale ce matin, en ce jour pas comme les autres, dans une France en alerte, dans un pays déchiré par une crise sans précédent, une crise politique et sociale où la violence a pris une part centrale. C'est la grande crainte de la journée, notamment à Paris, où les autorités ont mis les grands moyens pour éviter la répétition des scènes d'émeutes de samedi dernier. Près de 300 personnes ont déjà été interpellées à Paris. 34 sont en garde à vue. Avec nous en direct jusqu'à 10h, David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, Daniel Cohn-Bendit et Jean-Daniel Lévy, le directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive, et puis les reporters d'Europe 1 déployés à Paris et en région qui nous diront quel est l'état de la mobilisation.
Europe 1.
Bonjour David Lebars.
Bonjour.
Vous dirigez le syndicat des commissaires. Je commence avec vous parce que le maintien de l'ordre est devenu l'un des principaux enjeux de cette journée. 89 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France, dont 8 000 à Paris, soit 3 000 de plus que la semaine dernière dans la capitale. C'est quoi ? C'est pratiquement 100% des effectifs disponibles ?
C'est pas loin d'être 100% des effectifs disponibles, en tout cas de ceux qu'on pouvait mobiliser aujourd'hui en tenant compte de l'extrême fatigue pour les forces mobiles notamment qui sont employées depuis plusieurs semaines non-stop sur ces événements très difficiles.
Toutes les BAC de la région parisienne mobilisées, les brigades anticriminalité, ça fait plusieurs centaines de fonctionnaires en plus sur le terrain, en civil, pour quoi faire ?
Pour faire ce que le gouvernement a demandé, la fermeté qui nécessite, dès le début des exactions, s'il y en a, de pouvoir interpeller et de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui viennent casser, piller.
Ou avant même les exactions, puisqu'il y a eu des contrôles d'identité ce matin, des interpellations, je le disais, près de 200-278 actuellement, et 16 commissariats mobilisés pour accueillir les personnes interpellées, c'est-à-dire pour procéder à des gardes à vue en grand nombre.
C'est un dispositif d'envergure, peut-être d'ailleurs jamais vu, qui consiste à mettre en capacité de récupérer toutes les personnes qui auront commis divers délits pour les traiter sur le plan judiciaire. Donc beaucoup de civils sur le terrain, effectivement, y compris pour aller les chercher sur des délits, port d'armes ou toute autre infraction qui pourrait être liée aux manifestations à venir. Et puis ensuite, derrière, une capacité judiciaire très forte afin d'être en mesure de faire les procédures et de présenter les auteurs à la justice.
Alors, un dispositif inédit pour une tactique de maintien de l'ordre qui devrait évoluer en cas de trouble. On va en reparler, mais je le répète, pour l'instant, pas d'incident à signaler à Paris. Est-ce que, David Lebars, est-ce que cela correspond à l'ampleur de la menace, à cet épisode de très grande violence que le gouvernement dit redouter, ou bien est-ce qu'on n'est pas dans une manœuvre de dissuasion, montrer sa force, y compris avec des blindés pour ne pas avoir à s'en servir, ou alors le moins possible ?
C'est, je pense, les deux pour les policiers et les gendarmes qui sont engagés aujourd'hui. Il était important d'avoir un dispositif qui leur permette de faire face, puisque au vu des événements de la semaine passée et de l'ampleur de la menace qui est réelle, il ne faudrait pas tomber dans la naïveté. Les événements de samedi dernier dans certaines villes ont été très graves, très violents. Aujourd'hui, peut-être que le blindé, ça va être l'image qui va attirer les médias, mais le blindé qui est aujourd'hui utilisé par la gendarmerie, c'est un blindé qui n'est pas d'ailleurs un blindé armé, hein, c'est un blindé de protection qui va permettre notamment, s'il y a besoin d'ouvrir des barricades, de permettre à des policiers d'être protégés en cas d'agression caractérisée.
Ce blindé, c'est ce VBRG, véhicule blindé à roues de la gendarmerie, donc 14 de ces machines, c'est des engins de 12 tonnes, hein, on roulait depuis le camp de Versailles-Satory jusqu'à Paris, ce qui n'était jamais arrivé, non ?
Ça doit faire très longtemps qu'on n'a pas vu des blindés sur du maintien de l'ordre. En tout cas, en région parisienne, c'est sans doute inédit. Ils sont traditionnellement utilisés en dom-tom. On les a vus à Notre-Dame-des-Landes, mais à Paris, ça va être inédit sous la Ve République.
Je reviens à ma question d'il y a deux minutes. Est-ce que le renseignement intérieur a permis de savoir que des centaines ou des milliers de personnes viennent à Paris aujourd'hui, ont prévu de venir à Paris pour en découdre?
Le renseignement intérieur, depuis le début de ces événements, a toujours permis de donner les grandes tendances. Et à chaque fois, on a pu se rendre compte que ces tendances étaient parfaitement équilibrées en termes de prévision. Après, il est très difficile de chiffrer le nombre exact. On est sur une semaine très particulière. Si on prend les gilets jaunes historiques, les gens qui venaient manifester leur colère sociale, au vu des risques, on peut aujourd'hui émettre des doutes sur le chiffrage de leur participation, puisque en tant que citoyen, moi, quand je vois le dispositif aujourd'hui et qu'on compare à l'ampleur de la menace, les gens bienveillants, même s'ils ont une colère sociale, seront sans doute prudents et ne viendront peut-être pas se mettre, en tout cas dans les endroits où les choses risquent de dégénérer, mais il faut être prudent, il ne faut pas non plus annoncer le pire.
Ça veut dire que vous comptez sur un effet dissuasif.
Et il faut espérer que ceux qui regardent les événements et au vu de la prise de conscience générale dans l'opinion publique, le risque de dégénérer fait d'une part hésiter à venir. Et puis surtout, il y a un autre message à passer, c'est qu'il faut que les manifestants prennent conscience qu'ils peuvent, malgré eux, servir de bouclier humain. C'est la tactique des groupuscules et de ceux qui veulent semer le désordre. La foule leur sert de protection et on l'a vu dans les événements passés. Ça a été rendu difficile d'interpeller les auteurs parce qu'il y avait la foule et qu'on voulait éviter les dommages humains.
Des casseurs potentiels qui pourraient se rassembler ou passer à l'action, à quel endroit? C'est la question, parce que les deux samedis précédents, les Gilets jaunes étaient appelés à manifester sur les Champs-Élysées ou aux abords des Champs. Ce qui est en train de se passer actuellement, on va entendre notre envoyé spécial dans quelques minutes, puisqu'il y a des Gilets jaunes qui descendent les Champs-Élysées depuis l'Étoile jusqu'à la place de la Concorde. Mais d'autres points de rassemblement sont possibles. Il est question, David Lebars, d'une cinquantaine de points de rassemblement possibles dans Paris.
C'est une véritable guerre des nerfs, puisqu'on est face à un mouvement protéiforme. On l'a vu dès le départ et on aurait dû peut-être en tirer les conséquences plus tôt pour adapter les dispositifs. Mais aujourd'hui, le dispositif policier est un dispositif éparpillé et stratégique qui va permettre de s'adapter aux différents endroits où éventuellement les gens vont se rassembler. Mais pour le moment, c'est un peu l'inconnu.
Mais les forces de l'ordre peuvent sécuriser autant de zones simultanément dans une métropole comme Paris ?
Alors, la grande difficulté, il y a deux façons d'envisager le dispositif aujourd'hui. Il y a l'aspect maintien de l'ordre classique et il va y avoir la nécessité de tenir les périmètres sacralisés, l'Élysée, Beauvau, Matignon, d'autres qui sont, eux, tenus de façon statique et classique, et on le verra en bas des Champs-Élysées. Et puis, il y a l'autre aspect qui va être un aspect violence urbaine, qui là n'est pas un aspect de service d'ordre classique, mais qui va être une adaptation à la menace des violences urbaines. Et là, on a un énorme dispositif policier, gendarme, force d'intervention et de secours, qui va tenter de s'adapter et de prendre plus de mobilité pour faire face aux différentes menaces qui peuvent arriver aujourd'hui.
David Lebars du syndicat des commissaires de la police nationale. Théo Manval, vous êtes sur les Champs-Élysées pour Europe 1 avec un moyen de direct. Et vous voyez, vous avez devant vous des gilets jaunes, des manifestants qui descendent les champs de façon... pacifique pour l'instant, comment ça se passe ?
Oui, on va dire pacifique, ils sont effectivement plusieurs centaines, vous les entendez derrière moi, c'est surtout des huées pour l'instant. Et effectivement, ils sont en train de se mettre en marche pour essayer de rejoindre les rues qui mènent au palais de l'Élysée. Et dans quelques centaines de mètres maintenant, eh bien c'est quelques centaines, peut-être déjà milliers de gilets jaunes vont arriver face au fourgon des gendarmes mobiles qui bloquent l'accès à l'avenue de Marigny qui mène au palais de l'Élysée. Et c'est effectivement là qu'on va voir un petit peu comment les choses vont se passer. Pour l'instant, c'est assez calme. On a eu des broncas, on a eu des Macron d'émission, quelques Quolibets aussi. Mais voilà, il va y avoir une rencontre dans quelques centaines de mètres maintenant. Et c'est là qu'on va voir peut-être comment cette journée va commencer à tourner.
Vous restez en alerte, bien sûr. Théo Manval depuis les Champs-Élysées à Paris pour Europe. David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires, vous restez avec nous. On marque une pause avant de parler de la situation politique. Une crise de confiance d'une intensité rarement vue face à un chef d'État silencieux et quasiment invisible. On va appeler l'un de ses soutiens, Daniel Cohn-Bendit.
C'est arrivé cette semaine. C'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
En direct ce matin, pas d'incident pour l'instant à Paris. Des gilets jaunes qui descendent en nombre les Champs-Élysées. Et 317 interpellations, c'est le dernier chiffre communiqué par la préfecture de police de Paris. Bonjour Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour Patrick Cohen.
Merci de nous répondre dans ce moment politique particulier. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui à vos yeux ? Est-ce que, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon l'autre jour à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est l'histoire de France qui est en train de se passer ?
Oui, non, il ne faut pas exagérer, mais Jean-Luc Mélenchon aime l'exagération. Ce qui se joue, c'est tout simplement qu'il y a un mouvement qui exprime une fracture sociale, donc une colère sociale réelle, fracture sociale réelle. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est si ce mouvement aujourd'hui est capable d'exprimer, ses revendications, d'exprimer sa colère calmement, se joue la possibilité la semaine prochaine de commencer des négociations importantes pour répondre aux revendications. Si vous voulez, on aime bien comparer à mai 68, ce qui se joue aujourd'hui, c'est la possibilité d'un, ce qui avait été le Grenelle de 68, où, rappelez-vous, il y a eu une augmentation du SMIC de 30%, c'était un gros coup, c'est-à-dire que syndicats, patronat et l'État avaient compris qu'on devait répondre à l'angoisse des citoyens, à l'angoisse sociale, et c'est la même, on est dans cette situation aujourd'hui. Donc, ce qui se joue, c'est en fait la possibilité d'un issue politique avec des conséquences économiques réelles, ce qui doit arriver la semaine prochaine.
Un compromis.
Enfin, le début des négociations.
Un compromis, oui, une négociation, mais avec qui, avec quel représentant? On bute toujours sur cette question, Daniel Cohn-Bendit, avec d'un côté un pouvoir discrédité, un chef de l'État conspué, et de l'autre des représentants autoproclamés mais qui ne sont pas, n'ont pas été réellement désignés, qui pour beaucoup refusent de discuter toujours.
Oui, mais si j'ai bien compris, alors peut-être que je me trompe, là, de là où je suis, qu'il y a eu quand même une réunion avec quelques Gilets jaunes et Édouard Philippe hier soir.
C'est vrai.
Il doit y avoir un fil là. Il y a eu hier ce que j'ai pas entendu, mais il devait y avoir hier. Je sais pas si il y a eu une réunion entre plusieurs ministres et les syndicats. Je sais pas ce qui a été discuté. Donc il y a en ce moment le début de mise sur pied de structures de négociation. Moi, je crois qu'il faut réintégrer les corps intermédiaires, c'est-à-dire en fait reprendre la proposition de Laurent Berger et d'autres qu'on avait fait. Moi, j'avais fait une proposition même identique il y a 3 semaines, c'est-à-dire vraiment maintenant mettre sur la table le problème de l'injustice sociale et fiscale, surtout dans un pays comme la France.
Alors, il y a ces revendications, c'est la possibilité de mesures économiques et sociales, primes exceptionnelles aux salariés, on parle aussi de s'attaquer aux niches fiscales ou de taxer les grosses successions. Mais au-delà de ces revendications formelles et concrètes, il y a comment dire, la force du dégagisme dont le président de la République est à son tour la victime après en avoir été le bénéficiaire il y a un an et demi, la puissance du rejet de sa personne. Emmanuel Macron, on le voit, catalyse une bonne partie de la colère. En quelques semaines, on est passé du rejet à la haine. Vous les avez entendus, Daniel Cohn-Bendit, ces manifestations de haine. Comment répondre à la haine?
Alors moi, bon, il y a une haine certaine et... elle ne va pas disparaître. Mais bon, vous avez les institutions de la Ve République. Moi, je voudrais prendre de la hauteur, là. Le problème aujourd'hui en France, c'est, on l'a souvent dit, c'est la Ve République. Vous avez une République où, au premier tour, vous avez, 25%. Au deuxième tour, pour d'autres raisons, vous avez 65%, mais pas sur votre programme. C'est pour sur votre personne contre une autre personne. Et à la fin... vous avez 70% des sièges à l'Assemblée. Ce n'est démocratiquement pas tenable. Et l'on voit que dans la société, de plus en plus dans les sociétés modernes, vous avez des mouvements de rejet de ceux qui sont au pouvoir, qui sont incroyables. Regardez, même Mme Merkel en Allemagne, elle a dû, si vous voulez, engager un processus de retrait parce qu'il y avait ce rejet contre elle. Mmh. Donc je crois qu'aujourd'hui, on ferait bien de réfléchir vraiment à cette Ve République. Il faut la réformer. Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais je dis que c'est cette structure. Quand il y a vraiment une telle haine ou une telle angoisse, d'abord, qui s'est développée, je ne parle pas de la qualité du mouvement, je parle de la raison du mouvement. Eh bien, la Ve République devient de plus en plus dangereuse pour la démocratie en France.
En attendant de réformer la République, Daniel Cohn-Bendit, à votre avis, quand et comment Emmanuel Macron pourra-t-il reparler aux Français?
Écoutez, ma boule de cristal ne me donne pas tout et ne m'explique pas tout.
Elle ne vous dit pas le quand, mais ma question porte plutôt sur le comment. Comment s'adresser à nouveau aux Français?
Je crois que moi, ce que je dis, j'ai soutenu Macron, mais Emmanuel Macron, je crois toujours qu'il a une capacité politique incomparable. Maintenant, il y a un gros bug, un énorme bug. Quand vous avez un énorme bug, il faut faire un énorme reset. Il faut que publiquement, il discute lui-même de ce qu'il a compris, et non pas dire « je vous ai compris », mais voilà pourquoi ce que je sens. Moi, je crois que Emmanuel Macron doit revenir aux promesses de sa campagne. En fait, une démocratie, une république apaisée. Et cette promesse de la campagne, il y a eu une rupture que moi, j'ai mis longtemps à décrypter comme quelque chose, en fait, qui était en contradiction avec sa campagne. C'est cette idée qu'il avait théorisée avant, mais que j'avais peut-être pas tout à fait compris, d'une verticalité totale de sa conception de la présidence. Et c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où il fait des réformes, une grande partie que je trouve nécessaire, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Il faut qu'il dise aux lycéens, oui, c'est une erreur de vouloir augmenter l'inscription pour des étudiants étrangers. Dans un moment où il y a une telle méfiance face aux étrangers, faire cela, c'est absolument aberrant. Et là, il peut apaiser tout de suite en disant « je réfléchis, il ne faut pas le faire comme ça ». Évidemment qu'il y a des étrangers riches qui devraient payer, mais tous ceux qui viennent d'Afrique, ceux qui viennent du Maghreb, ils ne sont pas riches. Donc vous voyez, il peut faire des mesures, des remises en question, il dit « non pas seulement je vous ai compris, mais parce que je vous ai compris, je me remets en question et voilà ce que je vous propose ».
Merci Daniel Cohn-Bendit d'avoir été en ligne avec nous. Dans un instant, on va continuer d'ausculter ce moment politique inédit avec Jean-Daniel Lévy de l'Institut de sondage Harris Interactive. On est toujours avec David Lebars du syndicat des commissaires et puis avec les reporters d'Europe 1 déployés à Paris. Ça commence à chauffer un petit peu en bas des Champs-Élysées. On vous retrouve tout de suite.
Europe 1. La suite de cette arrivée cette semaine, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Avec tout de suite notre reporter en bas des Champs-Élysées où le premier contact a lieu, contact entre quelques centaines de gilets jaunes qui ont descendu les champs et les forces de l'ordre qui barrent l'accès au rond-point des Champs-Élysées au secteur de l'Élysée, Théo Manval.
Effectivement, je vous le disais tout à l'heure, ces gilets jaunes sont arrivés devant les gendarmes mobiles qui barrent les accès à l'Elysée pour leur demander de pouvoir passer, de pouvoir aller à la rencontre du président. Vous vous en doutez, la réponse a été négative et c'est à partir de là que les gendarmes ont essayé d'avancer un petit peu pour faire reculer ces gilets jaunes. Il y a eu quelques mouvements de foule, il faut vous imaginer, vous avez une colonne de, je dirais, une centaine de gendarmes sur toute la largeur des Champs-Élysées avec leurs casques, avec leurs boucliers qui essayent de faire reculer les gilets jaunes. Donc il n'y a pas eu de gaz lacrymogène tiré. Il y a eu simplement un petit mouvement de foule. Et cette image qu'on a vue tout à l'heure, un gilet jaune, gilet fluo sur les épaules qui s'est mis à genoux devant cette colonne de gendarmes, main sur la tête. Vous savez, comme ces lycéens qu'on a pu voir dans cette vidéo à Mantes-la-Jolie il y a quelques jours. Pour l'instant, on en reste à un face-à-face où la tension est effectivement palpable. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas eu de tir de gaz lacrymogène. Mais c'est un peu, on se regarde en chien de faïence et les gilets jaunes sont toujours face à cette colonne de gendarmes, vraiment au corps à corps.
C'est le face-à-face. Théo Manval, depuis les Champs-Élysées à Paris. Bonjour Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Harris Interactive. Avec les instruments d'aujourd'hui, les études en ligne vous permettent d'observer les évolutions de l'opinion au jour le jour dans ces moments décisifs. D'abord, la perception, la sympathie, le soutien des Français à ce mouvement des gilets jaunes, il reste très solide, très important.
Il reste très solide, très important et surtout quasiment stable depuis ces deux, trois dernières semaines avec, d'une manière générale, 72% en tout cas dans nos enquêtes, de Français qui déclarent soutenir les gilets jaunes.
Soutien, pas seulement de la sympathie.
Absolument. Soutien à l'égard du mouvement des gilets jaunes et depuis le samedi dernier, une vraie dissociation entre la forme et le fond. C'est-à-dire qu'il y avait une condamnation absolue des violences de la part de plus de 80% des Français, et ce qui ne les empêchait pas en parallèle de déclarer toujours le soutien à l'égard de la mobilisation qui se déroulait.
Mais la forme n'a pas entraîné le fond par le fond, si je puis dire. Absolument. C'est-à-dire que l'espoir de l'exécutif a été déçu de ce point de vue-là. La crainte d'un très grand désordre n'a pas fait basculer l'opinion.
Oui, alors on sait qu'il y a un regard qui est un regard extrêmement différent des Français selon les types de mobilisation et selon la manière dont il peut y avoir recours ou pas à la violence. On voit que lorsqu'il y a des mobilisations étudiantes, par exemple, le fait qu'il y ait une violence en général est assez fortement condamné. En parallèle, dès que les agriculteurs, par exemple, peuvent utiliser des moments ou des outils qui sont violent en tant que tel. Il y a une forme de clémence de la part de l'opinion qui est assez nette. Donc, ce n'est pas uniquement les modalités d'action. Il peut y avoir également un regard à l'égard du mouvement qui se déroule, de la sincérité des acteurs et de leurs raisons pour lesquelles ils peuvent se mobiliser.
Pourtant, Jean-Daniel Lévy, il me semble que cela fait des années que vous et les autres sondeurs nous expliquez que les Français demandent de l'ordre et de l'autorité, que cette attente-là dans le pays, elle est particulièrement forte. C'est pas vrai ?
Alors, si, c'est vrai. Mais si les Français étaient faits d'un bloc, ça se serait aussi. Donc, on a
des Ils sont faits de contradictions
et on les relève. Donc, un, ils veulent de l'ordre parce que, en fait, on est dans un pays où l'État s'est construit avant la nation, où il y a un regard qui est un regard extrêmement fort à l'égard d'une notion qui est une notion d'égalité. Et le garant de l'égalité, c'est le pouvoir politique central. Et dans un même élan, il y a quand même besoin de comprendre ce que peuvent être les disparités du pays, les disparités des situations sociales, les disparités territoriales. Et c'est ce qui se joue à l'heure actuelle avec des citoyens qui disent globalement. On a indéniablement un pouvoir politique qui est fort, mais qui est parfois trop fort et qui n'arrive pas, ne serait-ce qu'à restituer ce que sont nos conditions de vie au quotidien.
Alors, quelle est la France des gilets jaunes, enfin, ou du soutien aux gilets jaunes? Quelles sont les classes d'âge et les catégories qui se reconnaissent le plus dans ce mouvement inédit?
C'est un regard qui est un regard plus citoyen que consommateur, si vous me permettez cette distinction. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement aujourd'hui ceux qui sont touchés par les mesures qui sont proposées par le gouvernement ou ceux qui anticipent une dégradation de leurs conditions de vie qui vont forcément être solidaires ou en soutien. C'est-à-dire que ça dépasse le strict cadre de ceux qui ont des difficultés en fin de mois. Quand on regarde aujourd'hui ceux qui se mobilisent, quand on cherche à faire la sociologie, on voit que ce sont des personnes qui sont actives, qui ont un revenu, mais qui ne leur permet pas d'avoir ce petit surplus pour pouvoir améliorer leur quotidien.
Ce n'est pas forcément la France la plus pauvre.
Ce n'est pas
la France des fins de mois difficiles.
Absolument. Et ça peut même être une France urbaine, une France qui est une France issue des classes moyennes, voire des classes supérieures, qui va considérer qu'elles ne sont pas forcément touchées aujourd'hui par les mesures gouvernementales, mais qu'elles vont considérer que c'est injuste. Et que la notion d'injustice va les amener à dire, quelles que soient les modalités, quelles que soient aujourd'hui les conditions de vie des individus, on considère que le gouvernement porte une responsabilité dans la dégradation de leurs conditions de vie.
Évidemment, ça fait un spectre assez large dans l'opinion publique, ce que vous nous décrivez, Jean-Daniel Lévy. Face à cela, un pouvoir discrédité et un président honni, on en parlait tout à l'heure avec Daniel Cohn-Bendit.
Oui, un président qui est un président extrêmement critiqué. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de trait d'image, un président qui a nettement perdu une partie de son crédit. On se rappelle qu'il avait construit sa campagne présidentielle et que les premiers mois de son action à la présidence de l'Élysée avaient montré un président qui avait la maîtrise du cours des choses, qui savait où il allait et qui avait une vision relativement claire du cap qu'il voulait donner au pays. Là, quand on regarde les différents traits d'image attribué à Emmanuel Macron, un des derniers traits d'image, c'est le côté rassurant. 17% uniquement des Français le considèrent comme étant rassurant. Et de ce point de vue-là, il a nettement perdu d'un point de vue d'opinion au cours de ces dernières semaines, alors que c'est quand même ce qu'on attend de la part du chef de l'État, de la part du président de la République, celui qui est capable de pouvoir non seulement maintenir l'ordre public, mais également offrir une direction au pays. Sur ces deux points-là, il est profondément interrogé de la part des Françaises et des Français, et même de la part de son électorat de premier tour.
Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. On vous retrouve dans quelques minutes avec David Lebars du syndicat des commissaires et nos reporters à Paris et en région. Restez à l'écoute d'Europe 1.
Retrouvez Patrick Cohen jusqu'à 10h sur Europe 1 avec C'est arrivé cette semaine.
Avec une situation que nous continuons de suivre minute par minute dans Paris. Pas d'incident notable pour l'instant. 320 personnes interpellées. On le décrivait tout à l'heure avec Théo Manval. Quelques centaines de gilets jaunes qui ont descendu plutôt dans le calme les Champs-Élysées, qui se retrouvent au point de contact avec les CRS, les forces de l'ordre qui gardent le périmètre interdit, si je puis dire, en bas des Champs-Élysées, donc juste avant le rond-point et avant le palais de l'Élysée et le ministère de l'Intérieur, place Beauvau. David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires, vous êtes avec nous. Pour l'instant, pas de traces des casseurs ou des pilleurs dont on annonçait la venue à Paris et dont la venue était évidemment redoutée par les autorités. Hein.
Oui, mais il est encore tôt. Alors c'est une très bonne nouvelle, parce qu'effectivement, pour le moment, c'est parfaitement calme. Je vois que les policiers et gendarmes procèdent aux fouilles et ont déjà interpellé plus de 300 personnes. C'est tous ceux qui ont fait l'erreur de venir avec des armes par destination. Il y a plusieurs choses qui ont déjà été saisies, des bombes lacrymogènes, des boules de pétanque. Si tout se passe dans le calme comme ça toute la journée, on sera tous, je pense, très heureux ce soir, mais il faut être prudent et vigilant. La journée est loin d'être terminée.
La journée est loin d'être terminée. Je rappelle quand même aussi ce qui s'est passé samedi dernier, pillage, incendie, 249 départs de feu, dont 112 sur des véhicules et 6 sur des bâtiments, sur des immeubles. Alors, Paris a été en quelque sorte sécurisé, la ville de Paris a fait démonter quelques 2000 éléments de mobilier urbain, les grilles d'arbres, les barrières de chantier, les conteneurs à verre, etc. Mais il peut rester, il peut y avoir encore des armes par destination, des instruments qui peuvent permettre d'agresser les forces de l'ordre, David Lebars, dans Paris.
La quasi-totalité des armes par destination sur les événements passés sont sur place, effectivement, pavés, ustensiles de chantier, outils. Et, il est difficile d'imaginer qu'on puisse vider la capitale de tout ce qui pourrait servir de projectile. Donc encore une fois, il faut être prudent. Si des gens mal intentionnés viennent aujourd'hui, s'ils décident de casser et de piller, le rôle de la police sera d'essayer de les neutraliser, de les interpeller, mais il faut être prudent. Ça peut arriver, il ne faut pas annoncer le pire. Mais pour le moment, le dispositif qui est mis en place montre sa pertinence.
Avec une tactique différente de la tradition qui est celle du maintien de l'ordre français. Samedi dernier, le dispositif a été jugé, et à raison évidemment, trop statique, pas assez réactif. Il sera donc cette fois mobile et réactif, David Lebars ?
Oui, pour vous le présenter de façon simple, je crois qu'il ne reste que 30% des forces de l'ordre sur des positions statiques qui étaient incontournables et incompressibles, tenir les périmètres sacralisés. Et avec l'augmentation du nombre d'effectifs, on a maintenant un dispositif qui est d'une mobilité beaucoup plus importante, beaucoup plus dense, aussi bien en amont qu'en aval avec les enquêteurs. Et normalement, il est calibré pour faire face aux différentes formes de menaces.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller au contact des fauteurs de troubles pour les neutraliser, les appréhender ?
Aller au contact plutôt, aller les interpeller ou les neutraliser en respectant les règles de droit avec du sang-froid pour les sortir des différents groupes afin que les manifestants puissent circuler dans des conditions normales de manifestation, même si les règles de droit n'ont pas été respectées. Mais tout ça, il sera temps d'en faire le bilan plus tard. Et puis également pour sécuriser les gens qui vivent à Paris et qui ont très mal vécu ce qui s'est passé la semaine dernière et les précédentes.
C'est un grand changement de doctrine. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec le maintien de l'ordre classique des manifestations habituelles.
Alors, c'est pas encore un changement de doctrine, ça. Il viendra temps, il sera temps après.
Un changement
après
de mode opératoire, voilà. En tout cas.
Un changement de mode opératoire en quelques jours. Je fais partie de ceux qui avaient appelé les autorités à le mettre en place très rapidement. Et puis, comme je l'avais dit à certaines personnes, il n'y a aucune raison de ne pas oser, puisque ce qui a échoué. Et s'il n'y avait pas une adaptation nécessaire à la forme de menace, les dispositifs précédents n'étaient pas en mesure de faire face à ces violences qui s'exercent par petits groupes, qui est devenu protéiforme. Vous savez, côté force de l'ordre, on ne peut plus tellement parler du mouvement de gilets jaunes, mais des gilets jaunes, et encore, c'est même plus le mouvement des gilets jaunes. Ceux qui viennent casser se sont appropriés les dégâts, et les gilets jaunes se retrouvent eux-mêmes otages de tout ça.
C'est en tout cas un dispositif très inhabituel, et à Paris, la ville offre un visage très inhabituel à un peu plus de deux semaines de Noël, on le rappelle, les grands magasins fermés, commerces et restaurants, musées, monuments, spectacles annulés, tous les événements publics bouleversés. C'est évidemment une situation qui pénalise énormément la vie parisienne et la vie du commerce à quelques jours, je le répète, de Noël, et sur un jour qui est normalement important pour les achats de Noël. David Lebars, on voit toujours sur ces images le contact qui, pour l'instant, se déroule sans incident, mais un face-à-face, évidemment, qui, avec peut-être des invectives ou des échanges de mots entre les forces de l'ordre et les manifestants qui sont en contact en bas des Champs-Élysées. Mais bon, pour l'instant, ça ne bouge pas.
On est pour le moment, dans le maintien de l'ordre classique, qui est des menaces, des intimidations ou des provocations. Le rôle des forces de l'ordre sur ce type de situation va être de garder le sang-froid le plus important, puisqu'il en va de la réputation de nos forces de l'ordre, qui sont aujourd'hui celles qui vont permettre de garantir l'ordre public. Là, on est dans des situations vraiment classiques. Il faut rester dans la sérénité, et là, les forces de l'ordre en font preuve. Ce sont les gens qui viendront eux-mêmes au contact et qui iront, comme on dit, taper dans les barrages et tenter des intrusions, qui se mettront en difficulté et qui déclencheront une violence qui, de ce côté-là, est illégitime, et qui nécessitera à ce moment-là une réponse adaptée par rapport aux forces de l'ordre.
Une nouvelle pause, David Lebars du syndicat des commissaires, et on vous retrouve dans un instant également avec Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive. À tout de suite.
Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Émission spéciale en ce jour de très grande tension, mais sans incident majeur jusqu'à présent, face à face avec les forces de l'ordre sur les Champs-Élysées avec les manifestants gilets jaunes, mais 343 personnes interpellées déjà d'après la préfecture de police de Paris. Mobilisation aussi en province. Alors il y a un mouvement de foule qui se produit en ce moment sur les Champs-Élysées avec des forces de l'ordre qui font mouvement. Je ne sais pas si on est en mesure de rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux sur les Champs-Élysées. On va y revenir dans quelques instants. Mobilisation, je le disais aussi, en province, évidemment, et de façon pacifique des Gilets jaunes qui ont choisi de ne pas monter à Paris, de rester chez eux et de rester au plus près de la population. Dans le Var, au péage autoroutier du Muy, vous êtes sur place, Frédéric Michel.
Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, ambiance bon enfant, on est au café ce matin. Beaucoup de discussions, d'ailleurs la plupart des gens que j'ai rencontrés ici, des gilets jaunes, ils sont une quarantaine à occuper ce rond-point. Ils ont passé pour la plupart la nuit sur le rond-point. Depuis le 17 novembre, ils se relayent. Et ici, la plupart des gens que j'ai rencontrés m'ont dit non, ça ne sert à rien d'aller à Paris. Nous, on veut rester ici. Il faut qu'on se montre au niveau local. Il faut qu'on soit présent parce que c'est là que nous avons la discussion avec la population, avec les citoyens. C'est ce que je vois actuellement. Des gilets jaunes qui parlent avec des automobilistes qui sont un petit peu bloqués puisqu'il y a quand même un filtrage au niveau de ce rond-point. Et c'est cette discussion que souhaitent avoir les gilets jaunes pour une nouvelle fois pouvoir peser sur la suite. Ici, on débat beaucoup des revendications et il y en a énormément puisque, comme toute la semaine, les profils sont très différents. On peut retrouver des gens au SMIC, des gens au RSA, comme des commerçants, des artisans, des personnes qui gagnent plus ou moins bien leur vie et qui disent « nous sommes maintenant tous unis ici, on fraternise, on discute ensemble, on n'a pas forcément les mêmes points de vue, mais je veux dire, on sait que c'est maintenant ou jamais qu'il faut peser, notamment sur le gouvernement et ici, beaucoup de gilets jaunes. Je vous répète, nous, on n'attend qu'une seule chose maintenant, c'est la démission du président. » Et c'est la dissolution de l'Assemblée nationale.
Démission du président, dissolution de l'Assemblée. On en reparle dans une minute avec Jean-Daniel Lévy après avoir fait un nouveau tour sur les Champs-Élysées. Didier François, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur place, sur les Champs-Élysées.
Oui, bonjour. Bah écoutez, on a une situation un petit peu complexe ici, puisque il y avait 200-300 gilets jaunes qui étaient autour qui essayaient d'aller sur l'Arc de Triomphe il y a une vingtaine de minutes, qui, devant le dispositif de police et de gendarmerie, n'arrivaient pas à passer, donc ils sont repartis vers le bas, en direction des Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées, mais en direction de la place de la Concorde. Ils ont été bloqués au niveau du rond-point des Champs-Élysées, donc là, ils essaient de remonter. Entre-temps, on a un dispositif de gendarmerie mobile qui s'est mis en place, qui bouche le haut des Champs-Élysées et qui interdit complètement ce coup-là l'accès à la place de l'Étoile et à l'Arc de Triomphe. Dans les rues parallèles, ils ont déployé des escadrons de renfort avec la possibilité, il y a déjà 3 blindés qui sont là au cas où. Pour l'instant, c'est extrêmement calme, mais enfin, en tout cas, voilà, on voit bien que là, le terrain est extrêmement bien quadrillé.
Mais donc, les manifestants sont enfermés, Didier François.
Voilà, il y a une sorte de souricière, en fait. Donc, pour l'instant, c'est très calme, mais effectivement, s'ils passent à de la violence, de toute évidence, ça sera compliqué pour eux parce que c'est pas l'ambiance pour l'instant. C'est très le terrain est bien tenu, c'est ce qu'on appelle
le contrôle de zone. Les Champs-Élysées sont fermées cette fois-ci par les deux bouts et vous nous dites que les rues adjacentes sont également occupées par les forces de l'ordre, ce qui fait que les manifestants, ils sont quelques centaines d'après les images, ne peuvent plus sortir. Démission du président de la République, dissolution de l'Assemblée nationale. Jean-Daniel Lévy, je reviens à vous. Comment s'est cristallisé ou s'est accéléré ce phénomène de rejet de la personne du président de la République, parce qu'on a l'impression que tout ça a basculé en quelques mois ou quelques semaines.
Oui, mais il y avait un terreau déjà qui était favorable à cela. Hein. C'est-à-dire que depuis notamment les premières prises de décision politique, suppression de l'ISF, baisse des APL, il y a un terme qui a été accolé à Emmanuel Macron, qui est le terme « président des riches » et qui n'était pas un qualificatif positif. Et puis, à travers la manière dont il pouvait gérer le pouvoir, la perception d'un président qui était un président autoritaire, qui était un président qui décidait seul et qui ne tenait pas compte de l'avis des différentes personnes ou des différents corps intermédiaires, perception également d'une forme d'autorité, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est effectivement attendue de la part des Français, mais l'autorité ne doit pas confiner à l'autoritarisme. Et c'est la petite nuance qui a été accolée à Emmanuel Macron. Au cours de la période récente, la perception de la part des Français, et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, que lorsqu'on est en bas de l'échelle sociale, il y a un moment où on ne s'en sort plus, et donc une focalisation sur celui qui est emblématique de l'action, c'est-à-dire le président de la République.
Ce rejet que vous mesurez, Jean-Daniel Lévy, il est plus violent que pour les deux prédécesseurs d'Emmanuel Macron, François Hollande et Nicolas Sarkozy ?
Alors, il est d'une nature qui est une nature différente. Certes, il y a une intensité qui est une intensité forte, mais surtout, il y a le terme « arrogant » et la perception d'être face à un président qui est déconnecté de la réalité des Français, qui ne touchait pas forcément les anciens présidents de la République. Donc la perception qu'on est face à un président qui est un président hors sol, qui décide seul et qui parfois décide contre les aspirations de la part de la majorité des Français.
Merci Jean-Daniel Lévy. Je rappelle que vous êtes directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Merci beaucoup David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, d'avoir passé cette heure avec nous et de nous avoir éclairé sur la science difficile du maintien de l'ordre dans cette journée particulière, journée qui se poursuit sur Europe 1, qui va se poursuivre avec vous dans quelques minutes. Bonjour Olivier Duhamel.
Oui, bonjour Patrick Cohen.
Mediapolis ce matin.
Mediapolis spécial La France en éruption. Avec trois regards, un sociologue Jean Viard, une journaliste Françoise Fressos et un sondeur Édouard Le Cerf, avant de vous retrouver à midi.
À 11h, non, dès 11h.
À midi, ouais, c'est moi qui perds déjà la tête, c'est un peu grave.
À 11h,
entre 11h et midi.
Je prendrai la suite de Mediapolis et je vous écouterai d'ici là. À tout de suite dans 5 minutes donc, Mediapolis, Olivier Duhamel.
Merci Patrick Cohen, c'était C'est arrivé cette semaine. Bonne matinée avec Europe 1.